13h, Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h. Je suis Olivier Delacroix et je suis ravi de vous retrouver comme chaque jour pendant une heure en compagnie de ma camarade Ombline. Bonjour Ombline, comment ça va?
Bonjour Olivier, ça va bien, bonjour
dans
à tous.
Dans ces nouveaux studios,
ben
magnifiques.
Oui. On est un peu dépaysés, mais on est bien installés.
Nous y sommes, nous sommes là pour écrire l'histoire d'Europe 1 qui se continue. Pendant cette heure, nous partageons, comme vous le savez, vos expériences de vie, votre vécu sur Europe 1, comme vous le savez, nous intéresse. Près de 3 millions de personnes sont aujourd'hui touchées de près ou de loin par la maladie d'Alzheimer en France. On diagnostique près de 225 000 personnes chaque année. C'est une maladie neurodégénérative qui se manifeste par une perte progressive des facultés mentales et de la mémoire. Elle n'a à l'heure actuelle aucun traitement curatif. La maladie d'Alzheimer peut toucher tout le monde et change considérablement la vie des proches des malades. Des proches qui se retrouvent désemparés face à une maladie difficile à diagnostiquer au départ et qui change considérablement la personnalité du malade. Quels traitements et quelles infrastructures existent aujourd'hui alors que l'on sait qu'ici 2020, un Français sur quatre de plus de 65 ans sera touché par la maladie. Comment les proches font-ils face à cette maladie? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter.
Vous n'hésitez pas à composer le 39-21, le standard d'Europe 1, 39-21, 50 centimes la minute. Vous pouvez également nous écrire sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h-16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Vera au 39-21. Bonjour Vera.
Bonjour.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Alors moi j'ai 64 ans et je vous appelle là de Paris, mais normalement je vis sur Marseille actuellement.
D'accord. Alors votre mari Vera a été diagnostiqué malade d'Alzheimer il y a 7 ans alors qu'il n'avait que 54 ans. C'est ce qu'on appelle un Alzheimer précoce. Comment cela a-t-il commencé et comment vous l'avez remarqué?
Alors, en fait, j'observais un certain nombre de changements dans notre quotidien. Ça faisait déjà une petite vingtaine d'années que nous vivions ensemble et on avait donc un fils qui à l'époque devait avoir à peu près 15 ans. Et j'observais déjà depuis quelques années des petites choses qui ne correspondaient pas à sa façon d'être telle que je l'avais connue, mais bon, très difficile à mettre des choses dessus, des noms, comme je le voyais avoir des problèmes, je l'ai invité à aller voir des médecins qui à chaque fois parlaient de dépression.
Les médecins ont mis du temps à comprendre, oui, ce qui arrivait à votre mari.
Oui, oui, plus de 2 ans d'errance médicale avec très souvent des diagnostics de dépression, des médicaments à prendre qu'il ne prenait pas. Moi, je ne voulais pas rentrer dans sa démarche médicamenteuse parce que c'était surtout c'était une dépression, c'était son histoire à lui. Et en fait, je voyais que ça n'évoluait pas et que ça évoluait plutôt pas bien. Je dirais que dans les signes extérieurs, a posteriori, maintenant, il y a plein de choses que je décode comme étant effectivement la maladie qui avançait, puisqu'en fait, c'est une maladie qui a mis 10-15 ans à vraiment apparaître de façon visible, mais qui, de temps en temps, donne des petites alertes. Mais bon, il ne faut pas non plus que chaque fois que quelqu'un perd ses clés de façon un peu systématique, on pense à Alzheimer. Donc, vous voyez, c'est très complexe, en fait, parce que, voilà, on n'y pense pas et sûrement pas pour des personnes jeunes, ce qu'on appelle précoce ou jeune, c'est-à-dire moins de 65 ans.
Oui.
Lui, notamment, il faisait ses mails, il y avait des trous dans ses mails. C'est-à-dire qu'il écrivait et en fait, il pensait que les mots étaient là, mais ils n'étaient pas là. Et je m'en étais rendu compte complètement par hasard. Et après, systématiquement, je relisais ses mails avant qu'il parte parce que vraiment, il y avait comme une dyslexie très tardive qui s'installait, ce que je ne comprenais pas du tout, puisque c'est quelqu'un qui avait été journaliste et qui savait parfaitement écrire. Mais bon, je disais pourquoi pas, enfin bon.
Alors, lorsque, il y a 7 ans, le diagnostic est tombé, comment est-ce que vous avez réagi à ce diagnostic?
Alors là, sidération et colère. Oui. Moi, ça a été. J'étais pas du tout dans le déni, lui non plus. qui souvent est aussi le cas pour l'entourage ou les malades. C'est-à-dire, mais non, mais c'est pas possible, c'est pas moi, je suis pas malade, et voilà. Lui, il se rendait bien compte certainement que ça n'allait pas parce qu'il y avait effectivement plein d'informations. Toute sa mémoire immédiate qui ne réagissait déjà pas bien.
Ouais, ouais.
Et moi, la colère et la sidération, c'est pas possible. On s'était mariés 6 mois plus tôt. Voilà, au bout de 15 ans de vie commune, et bon, c'était terrible, quoi.
Et en fait, j'aimerais savoir, lorsque vous avez appris ce diagnostic, vous étiez tous les deux au courant de la gravité de ce diagnostic. Comment on réagit à ce moment-là? On sait vers quoi on se dirige irrémédiablement?
Alors, je crois que bah, tous les deux, on connaissait bien la maladie d'Alzheimer. On avait eu à travailler sur les actions du ministère de la Santé pour dans le cadre de la maladie d'Alzheimer qui avait été mise en place sous M. Sarkozy. Donc, c'est quelque chose qu'on connaissait. Je trouve que lui, il a été extrêmement philosophe, extrêmement paisible. Et moi, j'étais donc très en colère parce que je voyais sa fin de vie clairement se dessiner.
Mmh. Est-ce que vous vous êtes tout de suite senti entouré, conseillé? Comment est-ce que vous vous êtes organisé une fois que la maladie a été identifiée?
Très très mal, parce que donc lui il a été suivi à l'hôpital à la Pitié-Salpêtrière à l'IM2A, donc qui est le centre de la mémoire notamment pour les malades jeunes. Quand le diagnostic est tombé, le jour du diagnostic, on nous a donné toute une... Enfin, on m'a donné, parce qu'en fait, ils identifiaient déjà que le malade n'était probablement pas apte à bien entendre les informations et les gérer. Donc, on m'a donné toutes sortes d'informations, mais je n'étais pas du tout prête à les entendre et à m'en servir, quoi. Je posais pas les bonnes questions et enfin, ça vous tombe comme un...
Il doit y avoir de toute façon un temps de... Pour réaliser et puis pour se mettre en phase avec ce diagnostic. Vera, restez en ligne avec nous. Nous allons continuer à parler de votre histoire et de l'impact justement de la maladie sur votre quotidien.
Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous sommes toujours avec Vera qui nous expliquait dans la première partie de cette émission avoir appris ce diagnostic sur le tard avec son mari et être assez en colère par faute de ne pas avoir été entouré et conseillé. Est-ce que vous l'avez été finalement, Vera, orienté et
alors,
conseillé ensuite?
Oui, au final, oui. Donc la colère, c'était pas contre les autres, c'était face à la maladie, un peu au coup que la vie nous a sénés. Hein.
Oui.
Après, faut le temps de digérer, si vous voulez, ce coup de la vie, et puis accepter de vivre une nouvelle histoire. Quoi.
Une nouvelle vie.
À fait une nouvelle vie. Et en fait, le problème, si vous voulez, c'est que c'est effectivement une maladie qui a 7 stades. Au début, la personne, comme je disais, quand il allait acheter le pain ou faire des choses, c'est pas marqué la poste, c'est pas écrit sur son front qu'il est malade. Et on ne peut pas comprendre qu'il ait des difficultés avec l'argent ou à s'exprimer, parce qu'en fait, il a l'air parfaitement bien. Donc, vous voyez, c'est une maladie qui est assez insinueuse, parce qu'en fait, elle agit sur la personnalité, sur les capacités cognitives du malade, et au fond, ça ne se voit pas, surtout si c'est un malade jeune en pleine santé. Donc, par rapport aux autres, par rapport à la vie en général, au rythme de la ville et de la vie, c'est très difficile parce que notre population, on n'est pas informé de cette maladie. Donc, on ne sait pas accueillir les gens.
Nous ne sommes pas informés de cette maladie et pour avoir eu l'occasion de tourner dans le cadre d'un documentaire sur cette maladie, une femme qui a été touchée comme votre mari assez jeune par cette maladie, c'est vrai que le regard des autres est totalement violent pour le malade mais aussi pour les proches.
Absolument. D'ailleurs, le neurologue qui le suivait nous disait « Parlez plutôt d'AVC qu'à d'Alzheimer. » D'abord parce qu'Alzheimer fait plus peur, de par son côté non guérissable. Hein.
Oui.
Et puis, les gens comprennent un tout petit peu mieux, parce qu'il y a encore beaucoup plus d'AVC que de malades d'Alzheimer et surtout Alzheimer jeune. Mmh. Alors oui, on a eu des aides, enfin je dis je parce que c'est moi qui entraîne mon mari à, et moi j'en ai eu notamment par France Alzheimer et des gens qui ont pu m'aider et qui font des notamment des formations aux accompagnants, ce qui est indispensable parce qu'on ne peut pas comprendre comment résonne notre malade et comment l'aider et comment...
J'ai le sentiment, vous me dites si je me trompe, mais j'ai l'impression que tous les proches d'Alzheimer, de malades d'Alzheimer que j'ai rencontrés, cette prise en charge, cet accompagnement des malades, c'est dans le cadre d'associations qui l'ont beaucoup plus apprise que, par exemple, à travers les médecins ou à travers les hôpitaux. Est-ce que je me trompe là-dessus ?
En tout cas, c'est mon vécu et je pense que c'est le cas. Y a même des réseaux sociaux sur lesquels on est les uns les autres. Il y a une entraide et une l'aide, en tout cas l'information, je l'ai trouvée notamment par une association, par France Alzheimer puisque c'est le cas, mais en tout cas certainement pas par le tissu médical et par les lieux dédiés à ça dans lesquels on a été suivi régulièrement, absolument.
Alors, Vera, vous dites que, et on comprend totalement, que vivre aux côtés d'un malade d'Alzheimer, c'est un travail plein à 24 heures sur 24. De quelles difficultés avez-vous peur pour la suite, pour l'avenir ?
Tout est dur. Ce qui est dur, déjà, c'est ce qu'on appelle le deuil blanc, c'est-à-dire le fait qu'on quitte. Moi, je quitte l'amoureux, l'homme que j'aimais, et oui. Je suis avec tout à fait un autre homme, un cinquième enfant pour moi, mais même pas un enfant, puisque c'est un enfant qui désapprend chaque jour, qui en plus est très perdu psychologiquement, qui a des visions noires, et il est encore conscient par moments qu'il est malade et donc qu'il est empêché, qu'il est entravé dans son corps et dans sa vie, et il a des envies suicidaires, ou en tout cas il est très très noir, donc il y a ça, plus tout le quotidien, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable de manger tout seul, il n'est pas capable, il a besoin d'être aidé pour aller aux toilettes, il se lève la nuit, il déambule, il pique des colères, tout est compliqué, il n'a aucune autonomie. Donc vous êtes 24 heures sur 24 à accompagner votre malade. Et en plus, je dirais, ce qui est très très dur pour nous, accompagnants de malades jeunes, c'est qu'il n'y a pas de lieu dédié. Il n'y en a que deux en France, avec une cinquantaine de lits. Un qui se trouve vers Grenoble, à Crolles, et un qui se trouve dans le 77. Et c'est tout. Donc, en fait, si jamais un jour on ne peut vraiment plus et qu'on serait en recherche d'une institution la plus douce et la plus agréable possible qui pourrait accueillir nos malades, ben, il n'y en a pas. Mmh. Il faut demander une dérogation pour être dans une EHPAD avec des gens qui auront 80, 90 ans.
Le nombre de malades qui sont atteints de cette maladie d'Alzheimer, ce nombre de malades grandissant et... à écouter la description de cette nouvelle vie que vous décrivez, Vera, il va falloir bien évidemment réfléchir à accueillir ces malades, en tout cas pour soulager l'entourage. Merci pour votre appel et votre témoignage. Nous serons dans quelques instants avec Suzanne Horn. Elle est psychologue clinicienne, neuropsychologue et intervenante pour France Alzheimer.
Europe 1. L'un de vos proches est atteint de la maladie d'Alzheimer. Venez nous raconter votre histoire, votre quotidien. Vous nous appelez au 3921. Vous pouvez aussi nous écrire sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Vous retrouvez Olivier Delacroix sur Europe 1. Venez nous raconter votre quotidien en tant que proche d'une personne qui souffre de la maladie d'Alzheimer. À quelles épreuves êtes-vous confronté ? Vous nous racontez votre histoire au 3921.
Dans la première partie de cette émission, Vera nous explique combien il était compliqué de vivre avec un malade atteint de la maladie d'Alzheimer, son mari ayant été diagnostiqué il y a 7 ans, à l'âge de 54 ans, et combien sa vie avait été bouleversée. Nous sommes maintenant en ligne avec Suzanne Horn, psychologue, clinicienne, neuropsychologue et intervenante pour France Alzheimer. Bonjour madame.
Bonjour.
On entendait Vera nous décrire le changement de vie, parler de nouvelle vie, de deuil blanc, en tout cas du bouleversement face à cette maladie. Cette maladie qu'elle décrivait aussi quand elle parlait des autres, du regard qu'on pouvait porter, ces autres qui ne la connaissent pas. Pouvez-vous nous expliquer tout d'abord qu'est-ce qu'est France Alzheimer, quel est son rôle par rapport à tous ses proches de malades ?
Alors, France Alzheimer, c'est une association qui a été créée pour des familles, par des familles, au tout départ en 1985. Et aujourd'hui, ça, c'est une association qui a grandi. On fonctionne en réseau où nous avons une association départementale dans quasiment tous les départements en France.
Oui.
On s'est donc unis en Union France Alzheimer qui est située à Paris.
Mmh.
Et donc, ces associations-là sont en grande partie tenues par des bénévoles, la plupart du temps des bénévoles qui ont eux-mêmes vécu la maladie d'un proche.
Oui.
Donc, ils ont la connaissance de ce parcours, ils ont l'expérience pour la plupart d'entre eux. Et nous sommes aussi donc des professionnels, des psychologues en grande partie, mais aussi d'autres professionnels qui interviennent pour différents types d'actions de soutien aux aidants en premier lieu. Donc, France Alzheimer intervient essentiellement pour les aidants des malades, mais aussi pour le couple aidant-aidé, si on peut dire. Et on fait aussi quelques actions pour les malades directement.
On a l'impression, notamment à travers le témoignage de Vera, que les premiers symptômes de la maladie sont difficiles à diagnostiquer. Est-ce que ces symptômes varient d'un malade à l'autre ?
Alors, les symptômes sont souvent les mêmes. Hein. Ça commence avec des légers troubles de mémoire, des pertes de mots. Elle décrit très bien dans les mails de son mari. Il y a des troubles dans les mails. Elle les décrit très, très bien. Après, la manière dont ces symptômes vont s'exprimer d'un malade à un autre, là, ça peut varier parce que c'est une maladie du cerveau, donc ce n'est pas une maladie psychiatrique, contrairement à ce que
beaucoup
de gens pensent. Oui. C'est bien une maladie du corps, une maladie du cerveau. Et comme notre cerveau se construit de façon assez unique au cours de toute la vie, les réseaux neuronaux, etc., qui sont en fonction de nos expériences, cette maladie va venir se greffer sur une histoire de vie et sur un parcours qui est unique à chaque fois.
Mmh.
Et du coup, les mêmes symptômes peuvent donner différents signes cliniques. C'est-à-dire que la maladie peut s'exprimer de façon un peu différente selon qui est malade.
Mmh. Mais il n'y a aucun symptôme, des symptômes que l'on peut déterminer chez chaque malade. En fait, est-ce qu'il y a des symptômes qui alertent qu'on est sur un terrain?
En fait, c'est donc les manques de mots, les difficultés à trouver les mots justes,
oui,
mais surtout la difficulté à fabriquer de nouveaux souvenirs.
D'accord.
On va voir en tout cas, ça c'est vraiment très spécifique à la maladie d'Alzheimer, c'est que les anciens souvenirs vont rester très très longtemps, la mémoire sémantique, les connaissances, tout ce qui est acquis, ça restera pendant très 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 longtemps dans la maladie, mais c'est vraiment cette capacité d'adaptation, c'est-à-dire d'assimiler une nouvelle information et de pouvoir adapter sa façon d'agir, de penser selon des nouvelles données. Parce que tout simplement, l'hippocampe étant impliqué dans la mémorisation, et c'est l'hippocampe qui est touché en premier, c'est comme si tous ces nouveaux éléments s'évaporiser.
Suzanne Horn, vous êtes psychologue, clinicienne, neuropsychologue et intervenante pour France Alzheimer. Nous allons accueillir dans quelques instants Richard, avec qui vous allez pouvoir échanger, qui va nous apporter aussi son témoignage. Vous restez donc en ligne avec nous. Richard a accompagné son père, malade d'Alzheimer, qu'il a accompagné jusqu'au bout.
Mon mari a été diagnostiqué à 60 ans, nous dit Edith, au 39-21. Il était encore en activité. 5 ans plus tard, la personne que j'ai épousée est morte. Il est vivant, mais tout ce qu'il était a disparu. C'est un deuil absolument impossible.
Europe 1.
L'un de vos proches est atteint de la maladie d'Alzheimer. Venez nous raconter votre histoire au quotidien. Votre quotidien. Vous nous appelez 3921. Venez témoigner au 3921. Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous devions avoir Richard au téléphone. Peut-être que nous allons réussir à l'avoir avant la fin de cette émission. Mais nous sommes maintenant avec Estelle au 3921. Bonjour Estelle. Soyez la bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Alors, j'ai 25 ans et je vous appelle de la région de Valence.
D'accord, Valence, dans la Drôme.
Oui.
Votre grand-mère, Estelle, a été diagnostiquée il y a 6 ans. Vous étiez donc très jeune. Comment est-ce que vous avez réagi à ce diagnostic?
Ben, la première fois, on se pose beaucoup de questions sur Alzheimer. On a beaucoup de doutes. Alzheimer, c'est un petit peu un mot qui fait peur. C'est une espèce de grosse nébuleuse comme ça, un peu floue. Donc, on se demande vraiment qu'est-ce que c'est, comment la maladie va évoluer, qu'est-ce que ça veut dire, surtout pour ma grand-mère.
Oui.
Comment on va arriver à gérer ça. Voilà, on se retrouve face à cette nébuleuse, on est dedans et puis on essaye de s'adapter tous ensemble.
Et en fait, elle a été accompagnée tout de suite, votre grand-mère, quand elle a été diagnostiquée. Vous avez tout de suite réagi, les médecins, l'entourage.
En fait, nous, du coup, on a décidé de ne pas faire perdre ses repères à ma grand-mère.
Oui.
Mon grand-père a aujourd'hui 85 ans et il a décidé, du coup, de s'en occuper. Mmh. Donc, on l'a laissé dans la maison familiale. Donc, elle est toujours avec mon grand-père, c'est lui qui s'en occupe. Heureusement, c'est un couple très solide,
Même si
c'est difficile.
Comment ça se passe, justement, lorsque vous dites que c'est difficile
Bah, c'est difficile surtout pour lui, parce qu'émotionnellement et physiquement, il est quand même assez âgé.
Oui.
Et puis émotionnellement, c'est vrai que ce qui lui manque le plus, c'est de ne pas pouvoir tenir une conversation normale.
Bien sûr.
Mmh. Avec elle, c'est vraiment le manque le plus important. Après, il y a ma mère qui passe très souvent. Ma mère est infirmière, donc
oui.
Elle a quand même un œil un petit peu professionnel là-dessus.
Mmh.
Même si forcément, ça la touche aussi, hein, vu que c'est sa mère. Et mon frère et moi, on passe quand même très souvent. On était déjà une famille très soudée avant, et disons que ça n'a pas changé.
Mmh.
Là-dessus, ça n'a pas cassé, Alzheimer n'a pas cassé ça.
Mmh. Vous vous sentiez un peu démuni, sans trop savoir comment faire pour l'aider au moment. Est-ce qu'on s'habitue à cette maladie, même du haut de votre âge, de votre jeune âge?
Est-ce qu'on s'habitue?
Est-ce qu'on accepte?
Non. Oui, par contre, ouais, on finit par l'accepter. En fait, on se rend compte qu'on est obligé de passer au-dessus. Mon frère est encore plus jeune que moi, il a 5 ans de moins que moi. Hein.
Mm-hmm.
Et on passe au-dessus parce qu'on se rend compte que de toute façon, on n'a pas le choix. On fait avec.
Ouais.
On fait avec, c'est vraiment le mot, hein, mais pour mon grand-père et pour ma mère, c'est pareil, on fait avec. On fait avec, on s'adapte, on trouve d'autres solutions. On a la chance de pouvoir encore être proche d'elle. Voilà. On trouve, disons, dans ce petit malheur, des petits moments de bonheur.
Oui.
On s'accroche à ça.
Et est-ce que vous vous sentez accompagné ou est-ce que finalement le fait d'avoir gardé votre grand-mère dans sa maison avec votre grand-père, je sens de vous être organisé les uns et les autres. Est-ce que vous recevez quand même une aide extérieure?
Oui, alors on a une aide ménagère qui vient quand même 2 fois par semaine,
ouais.
Une infirmière extérieure. Mmh. Et surtout, on est accompagné par une association où ma grand-mère, en fait, va dans cette association 2 fois par semaine, 2 après-midi,
ouais.
Où elle fait des activités, des jeux, de la cuisine. On la pousse à parler, à chanter.
Mmh.
Alors, c'est bien pour elle parce que ça lui fait voir autre chose, ça lui fait aussi quand même travailler sa mémoire et son langage. Alors je ne pourrais pas dire est-ce que vraiment c'est efficace, je ne sais pas, mais en tout cas pour nous, en tant que proches, c'est vraiment une aide.
Mm-hmm.
Pour mon grand-père, ça lui permet quand même d'avoir des moments où il peut respirer, prendre un petit peu de recul, s'occuper un petit peu de lui.
D'accord. Vous sentez qu'elle est réceptive à cette aide?
Alors en tout cas, ma grand-mère c'est quelqu'un qui rigole beaucoup.
Mm-hmm.
Et elle n'a pas l'air malheureuse. Elle participe aux activités. Après, est-ce que vraiment, par rapport à la maladie, c'est efficace? Je n'ai pas assez de recul là-dessus. En tout cas, on sait que ça ne lui fait pas de mal et peut-être que ça permet à la maladie d'évoluer peut-être moins vite.
Mmh.
Voilà.
Merci en tout cas Estelle d'avoir livré votre histoire, votre témoignage au 39-21 puisque du haut de vos 25 ans et si j'ai bien compris votre frère en a 20, vous devez quand même apporter à cette grand-mère un réconfort quotidien et pour ça bon courage et merci encore une fois d'avoir eu le courage de témoigner aujourd'hui dans le cadre de cette émission. Dans quelques instants, nous allons enfin accueillir Richard que nous avons récupéré.
Vous vous reconnaissez dans le témoignage d'Estelle que vous venez d'entendre. Vous soutenez l'un de vos proches atteints de la maladie d'Alzheimer. Vous nous racontez au 39-21. Vous composez le 39-21 pour venir échanger avec Olivier Delacroix, pour venir nous raconter votre vie en tant qu'aide d'un malade d'Alzheimer. Comment arrivez-vous à faire face? Nous vous lisons aussi via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
Et nous sommes en ligne avec Richard. Bonjour Richard et soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1. Nous vous avons récupéré. Bonjour. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Richard?
Alors, j'ai 39 ans et j'habite à côté de Salon-de-Provence, dans les Bouches-du-Rhône.
D'accord. Alors, il y a un petit bruit, là. Ne bougez plus. Voilà.
Je ne bouge plus.
Voilà, je vous entends très bien. Donc, Richard, votre père a eu, à l'âge, vous a eu, hein, à l'âge de 50 ans. Vous dites que vous avez grandi avec un papa plutôt vieux. Et puis, quand il a eu Alzheimer, vous êtes retrouvé aide-soignant. Cette maladie semble avoir été fulgurante quand elle a été diagnostiquée en 2012. Votre père est entré en EHPAD dès 2013. Pourquoi ce choix assez rapide?
Alors, je rectifie, je suis aide-soignant de profession.
Ah, vous êtes aide-soignant de profession, d'accord.
Voilà. Et j'ai travaillé avec de nombreuses personnes Alzheimer et j'ai constaté quelques symptômes qui sont apparus en 2012. C'était quelqu'un qui faisait beaucoup de mots croisés, beaucoup de lectures, et du jour au lendemain, il ne faisait plus rien. Il m'a dit je ne comprends plus ce que je lis.
D'accord.
Je me suis posé quelques questions, et puis il a commencé à avoir des crises de paranoïa, où il me disait on rentre chez moi, on me vole mes affaires. Donc tout ça, c'était des petits signes avant-coureurs qui m'interpellaient. Et puis, il y a eu un dimanche où je suis arrivé, il était complètement paniqué, dans un autre monde, il s'était uriné dessus, tout ça. On l'a fait hospitaliser pour des examens, et là, il n'est jamais rentré chez lui, quoi. Il a été hospitalisé, il est rentré en EHPAD quelques jours après, quoi.
Mm-hmm. Je crois savoir que vous culpabilisez beaucoup, en fait. Est-ce que c'est du fait de ce placement en EHPAD, de quoi culpabilisez-vous?
C'est quelque chose qui est récurrent chez les aidants, la culpabilité d'enfermer son parent dans un EHPAD quand oui. Il y a des gens qui ont vécu des années chez eux, qui étaient autonomes il y a 10 jours avant et qui se retrouvent enfermés, et puis ils ont des moments où, enfin moi je vois papa avait des moments de lucidité et il me disait tu fais exprès de me mettre là, tu m'enfermes,
oui.
Donc tout ça fait que on a ces notions de culpabilité qui arrivent et effectivement j'ai beaucoup pleuré, j'en ai fait une dépression et j'en sors là à peine il y a quelques mois, mais ça a été très dur et je voulais rebondir sur ce que disaient les auditeurs d'avant. Quand je suis sorti de chez le neurologue, j'ai rien eu qui m'a dit on va vous aider. On m'a dit c'est Alzheimer et c'est 50 € la séance. Donc si vous voulez, il n'y avait pas d'accompagnement derrière. Et c'est ce que j'aimerais, c'est que vraiment les médecins mettent en place des accompagnements pour déjà de formation auprès des aidants, parce que ils sont souvent livrés à eux-mêmes. Alors j'ai la chance d'avoir moi de m'être aidé en créant une page Facebook qui s'appelle Parole Alzheimer, partage entre aides, où justement on est entre aidants et on s'aide, on donne des conseils, on se parle, on s'écoute, et ça permet aux gens d'échanger sur la maladie d'Alzheimer, sur la vie des aidants, sur la vie des personnes malades, et y a un gros manque de formation, et c'est ce que je déplore le plus, et d'accompagnement, surtout au niveau du système social. Autant au niveau services sociaux, tout ça, c'est très compliqué. Quoi.
On aura compris en tout cas qu'il faut largement réfléchir sur cette question. Merci Richard pour votre témoignage au 3921. Dans quelques instants, nous accueillerons Marion. Sa maman est atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis 10 ans.
Comment réagir face à un proche atteint de la maladie d'Alzheimer? Vous y êtes confronté, on vous écoute au 3921. Portugal The Man sur Europe 1 avec Philippe Steele. L'un de vos proches souffre de la maladie d'Alzheimer. Comment arrivez-vous à faire face? Vous échangez avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes toujours en ligne avec Suzanne Horn, qui est psychologue clinicienne, neuropsychologue et intervenante pour France Alzheimer. Madame, on entendait Richard témoigner sur le placement de son père en EHPAD. Apportez-nous vos éclairages sur ce placement. Quand doit-il intervenir? Est-ce qu'il y a un moment précis ou est-ce que finalement ce choix dépend de tout un de la famille et de qui peut s'occuper du malade et de comment on vit cette maladie?
Alors, le choix ne dépend jamais de la famille, ça dépend de l'évolution de la maladie. Et j'aimerais même dire qu'il ne s'agit pas c'est pas un choix. C'est une décision qu'on doit prendre à un moment où le maintien à domicile devient impossible. Et là,
ça dépend de plein de facteurs. Est-ce que la personne malade vit seule ou en couple? Est-ce que la personne qui vit avec lui est fatiguée, peut-être lui-même malade? Il ne faut pas oublier que beaucoup d'aidants meurent avant leurs proches malades. Et chez les aidants conjoints, oui. On a estimé ce chiffre à 50% des aidants conjoints qui meurent beaucoup. Avant leurs proches malades. Voilà, c'est mm-hmm. énorme. Il y a un enjeu de santé énorme. Mm-hmm. Donc, ce choix, si je peux dire, c'est un choix qui a à prendre de la part du corps médical, mm-hmm. hein, les médecins, les infirmières, les intervenants à domicile, le proche qui vit avec la personne malade n'a rarement ni la distance nécessaire ni les connaissances sur la maladie pour vraiment évaluer l'évolution de mmh. ce qui va se passer.
C'est important, c'est important l'éclairage que vous nous apportez, parce que vous entendiez Richard qui nous disait avoir beaucoup culpabilisé, sortir d'une dépression nerveuse. Or, on avait l'impression qu'il portait presque la responsabilité de tout ça sur ses épaules. Voilà. Or, vous êtes en train de nous expliquer le contraire.
Oui, c'est une charge supplémentaire hein, quand on laisse à la famille ce choix ou cette décision. Je pense vraiment que les professionnels à s'organiser autour de couples aidants aidés, si je peux dire, autour de la famille de la personne malade pour évaluer cette situation. Et c'est une évaluation au cas par cas mmh. qui dépend de plein de facteurs différents.
Ouais.
Et après, vous parlez beaucoup parlent de placement. Personnellement, je préfère parler de confier son proche mmh. à une institution. Je pense que c'est vraiment une relation de confiance qui doit s'instaurer. Et là, j'incite tout un chacun qui a un proche atteint de maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée d'aller regarder les établissements, les EHPAD ou les autres établissements qui sont dans les alentours, ne serait-ce que pour se rendre compte à quoi ça ressemble. Parce que les maisons de retraite aujourd'hui ne ressemblent pas du tout aux maisons de retraite qu'on avait il y a 20 ou 25 ans.
Nous allons pouvoir en parler. Allons pouvoir en parler. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais on va pouvoir en parler brièvement. Pardonnez-moi, Marion, il ne nous reste que très peu de temps. Mais bonjour, Marion.
Bonjour.
Je résume. Hein, votre maman, elle aussi, a été diagnostiquée souffrant de la maladie d'Alzheimer. Elle est redevenue comme une enfant. Est-ce que vous décririez ça comme ça ou,
Oui. C'est vrai que ça fait un peu le cercle de la vie, le retour à la case départ. Il y a une vraie perte d'autonomie qui a été assez progressive, qui est devenue quasiment constante ces dernières années.
Et justement, vous avez fait placer. Alors voilà, on entendait Madame Horn dire qu'elle n'aimait pas ce...
et pas très agréable, mais c'est
peu,
vrai.
Peu importe d'ailleurs, dans la gravité de ce que vous vivez, vous voyez ce que je veux dire, le terme peut-être mal choisi, mais en tout cas, votre maman en fait, a été dans un EHPAD. Est-ce que c'était pour la protéger ou pour vous protéger vous aussi ?
En fait, c'était pour la protéger de la personne avec qui elle vivait, qui était mon père, enfin qui est mon père toujours évidemment, qui lui a très très peu accepté cette maladie. C'est quelque chose qu'il est dans lequel il est encore dans le déni. Il n'a pas du tout accepté le changement de personnalité, parce qu'il y a un vrai changement de personnalité dans cette maladie-là. Et il n'a pas supporté de devoir faire le deuil de sa femme qui est encore en vie. C'est ça qui est très très compliqué. Ouais, c'est que ça. Le corps est le même, l'apparence est la même, mais l'intérieur et la personnalité n'est plus du tout la même. Et pour mon père, en tout cas, ça n'était plus du tout viable. Pourtant, j'avais mis beaucoup, beaucoup de choses en place pour qu'il puisse être traité au quotidien et qu'elle soit stimulée. Mais il y a une espèce de colère et de colère contre la vie, de colère contre la maladie, et du coup de colère qui a commencé à se diriger contre elle. Et j'ai commencé à avoir peur parce que je me suis dit que la prochaine étape allait pouvoir être violente. Oui. Donc j'ai pris la décision et j'ai accompagné mon père pour trouver un établissement digne de ce nom, pour pouvoir effectivement placer ma mère en EHPAD, et ça date d'août 2018, donc c'est vraiment très récent.
Et finalement, pouvoir protéger votre père, sans doute d'une situation qu'il n'aurait peut-être pas pu gérer jusqu'au bout. Mille excuses, Marion, pour le temps qui vous était imparti. C'est la fin de cette émission, malheureusement. Merci d'avoir en tout cas témoigné au 39-21 aujourd'hui. Merci aussi à Vera, à Suzanne Horn, à Richard et à Estelle Michel, de nous avoir appelés. C'est la fin de cette émission. La maladie d'Alzheimer est difficile à vivre pour les malades et pour les proches au quotidien, on l'a vu. Dans cette épreuve, il faut être patient, adopter les bonnes attitudes et les bons gestes pour notamment éviter les accidents domestiques. N'hésitez pas à vous faire aider, conseiller et accompagner, notamment si vous envisagez un placement dans une structure spécialisée. Vous pouvez prendre contact avec France Alzheimer au 01 42 97 52 41. Je répète le numéro 01 42 97 52 41. Vous pouvez bien évidemment dans chaque département, dans chaque région, vous faire aider par France Alzheimer, car plus que jamais, cette association aide les familles. Vous pouvez continuer bien évidemment à discuter sur notre page Facebook et sur les réseaux sociaux.
Et si vous le souhaitez, vous pouvez venir échanger le soir sur Europe 1 avec Sophie Peters lors de la libre antenne d'Europe 1 de 22h30 à 1h du matin.
Europe 1.
Demain, nous parlerons ensemble des troubles du sommeil. 36% des Français déclarent souffrir d'au moins un trouble du sommeil, insomnie, apnée. Et parmi eux, seulement 18% suivent un traitement. Alors que faire contre ces troubles du sommeil? Si vous dormez mal, pas assez ou trop depuis toujours, si vous êtes insomniaque ou somnambule, si vous avez trouvé le remède à vos problèmes de sommeil, eh bien appelez-nous au 3921 pour nous parler de votre histoire. J'ai été ravi de passer cette heure avec vous, ma chère Ombline, et je vous laisse, chers auditeurs, maintenant avec Laurence Boccolini. Oui. J'ai vu vos invités là.
Annie Duquerel,
que j'admire, que je voilà. Donc. Alors passez une jolie heure à vous marrer et à chanter.
Merci.
Et à vous raconter.
Ah oui, on va tout faire.
À demain. Les filles, ciao.
À demain avec Olivier Delacroix sur Europe 1.